quête d'identité. Quand je suis arrivée samedi ici à Cosne-sur-Loire, j'étais bien embêtée. Je disais à mes amis, mais comment je vais faire pour présenter à des adolescents une conférence qui porte sur l'identité à l'adolescence? C'est toujours un petit peu embêtant. J'ai réfléchi, j'ai pas mal réfléchi. Et j'ai essayé de trouver une idée à partir de cette thématique. Et l'idée que j'ai trouvée, enfin en tous les cas, le point dont je suis partie, parce que en quête d'identité, hein, il y a cette notion d'enquête, hein, presque d'investigation, je suis partie d'un document qu'on possède tous, ou à peu près tous, ou de documents en tous les cas qui renvoient à cette notion-là. Je suis partie de ma carte d'identité, et je ne sais pas si vous vous êtes intéressé à ce document pour regarder d'un peu plus près ce qu'il comporte. Moi, en tous les cas, c'est ce que j'ai fait pour venir vous parler d'identité. Et je vais vous dire tout de suite d'ailleurs par quoi ça commence. La carte d'identité, elle commence par un numéro. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Notre identité, en tous les cas dans nos sociétés dites modernes, elle est définie par un chiffre, alors qui comporte un nombre qui comporte pas mal de chiffres d'ailleurs. Je ne sais pas à quoi renvoie chacun de ces chiffres, mais voilà, on est d'abord des numéros. Le deuxième élément qu'on va trouver sur cette carte d'identité, c'est le fait qu'on est d'une nationalité. C'est cette notion de nationalité. Hein, et ça c'est une question intéressante parce que je me doute que vous avez eu écho de ce grand débat qui a eu lieu, enfin ce grand débat qui n'a pas eu lieu plutôt, qui a fait flop, comme on dit, le débat sur l'identité nationale qui avait été proposé par le gouvernement. Un débat, évidemment, qui ne fait que relancer des polémiques racistes, un débat qui ne peut nous laisser qu'impuissants face à une question aussi vaste que savoir qu'est-ce qu'une identité nationale dans un pays qui bouge autant que le nôtre, où il y a autant de modifications. C'est évidemment une question qui reste entièrement ouverte et très difficile à répondre. Bon, passons sur cette question de la nationalité. Bien ensuite, le nom de famille. Sur cette carte. Moi, mon nom de famille, c'est Rossé. Ce nom de famille, c'est pas le nom de ma mère, c'est le nom de mon père. Puisque c'est comme ça, en tous les cas, dans l'état civil, ce sont les pères qui reconnaissent leur enfant. Il faut savoir que ce choix du nom du père, il est essentiellement pragmatique, pratique, fonctionnel. C'était pour relier le père à ses enfants. La mère, en général, vu que c'est elle qui met les enfants au monde, elle est très attachée à ses enfants. Le père, c'est moins évident. Donc, on laisse le père donner son nom et on rattache de cette manière-là l'enfant à sa famille, à son premier groupe d'appartenance qui est donc la famille. Voilà ce que révèle ce premier nom. Ensuite, on a des prénoms, un ou plusieurs prénoms. Généralement, on a un prénom usuel, donc le mien, c'est Elisabeth. Et puis ensuite, on a deux prénoms qui suivent, ou plusieurs, ou deux, ou trois, ou un seul d'ailleurs, et généralement ces prénoms renvoient à des filiations plus anciennes que ses propres parents. Ça renvoie souvent aux grands-parents. Dans mon cas, par exemple, j'ai eu droit à Marie et Geneviève, qui sont les deux prénoms de mes grands-mères, et donc qui me relient à ces personnes de ma famille, une fois de plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Et là, ça devient d'autant plus intéressant parce que on a ensuite le sexe. Alors, vous pourriez me dire, mais une fois qu'on a votre prénom, de toute façon, on sait de quel sexe vous êtes. C'est vrai. Mais c'est une information capitale par rapport à la question de l'identité. Il est bien évident qu'être une femme ou être un homme va, en fait, nous orienter pour le reste de notre existence. Bien sûr, dans notre rôle social, mais aussi, évidemment, dans notre biologie. À commencer par ça, d'ailleurs. Hein, on n'est pas pareil physiquement. On n'a pas le même corps si on est un homme ou une femme. Après avoir dit cette grande banalité, par contre, on pourrait s'intéresser à cette notion de place sociale. Parce que c'est pas pareil d'être une femme, par exemple, quand on va naître dans un pays où la femme occupe une place très déterminée et très limitée. écouter. C'est pas pareil d'être un homme quand on est dans une autre société. Alors je vais être un peu plus claire. Par exemple, être une femme en Chine, ça l'était très longtemps un handicap. Est-ce que vous le savez peut-être, mais en Chine, il y a eu une politique particulière sur les naissances, et donc les gens, les parents préféraient favoriser la venue d'un garçon plutôt que la venue d'une fille. Être une femme dans une société matriarcale, c'est au contraire avoir une position de force. C'est la position de la femme qui va gérer à peu près tout. Ensuite, sur ma carte de naissance, je vais trouver la date de naissance. Donc là, on m'inscrit dans le temps. C'est pas pareil d'être né en 1939 en Allemagne, par exemple, que d'être né, comme dans mon cas, un 1er décembre 1976 à Thiers. Thiers, c'est une petite ville de banlieue parisienne, un peu perdue. Ça ne renvoie pas aux mêmes choses. C'est évidemment pas la même chose que d'être né dans nos sociétés riches et modernes que d'être né en Afrique où il n'y a pas d'eau et pas de possibilité de se nourrir. Ça change tout. Donc toutes ces informations-là, je vais les trouver sur ma carte d'identité. L'information suivante, d'ailleurs, c'est assez amusant. Elle concerne la taille, parce que sur votre carte d'identité, on note la taille que vous faites. Voilà un élément supplémentaire. Bon, il n'y a pas que ça sur cette carte d'identité, je vais en finir avec elle d'ailleurs et passer à discuter à autre chose. Il y a aussi la signature. Ah, ça, la signature, ça c'est intéressant. La signature, c'est mon petit espace à moi. Tout le reste, c'est pas moi qui ai cherché, c'est pas moi qui ai écrit, tout le reste, ça m'est fourni par l'État. Mais ça, la signature, j'ai le droit de faire comme je veux. Et cette signature, elle me semble, elle va condenser un certain nombre des paradoxes de mon identité, un certain nombre des dimensions de mon identité. Donc, comme je le disais, c'est une création personnelle. Très généralement, dans ma signature, je vais faire apparaître des lettres qui concernent mon nom de famille, donc je vais rappeler une fois de plus ma filiation, là d'où je viens. Et puis, ce qu'elle permet, cette signature, c'est de se différencier. De se différencier, puisque ma signature, elle m'est propre, elle n'appartient qu'à moi, elle est personnelle, et elle me permet de m'affirmer et en même temps d'être reconnue par les autres. Quand j'appose ma signature, ça veut dire que généralement je donne mon accord par rapport à quelque chose qui m'est proposé, et on pourra me remettre en cause si jamais on me dit vous avez signé ce document, c'est bien votre signature, c'est aussi un élément de reconnaissance. Généralement, cette signature, on la garde toute sa vie. On la choisit à peu près quand on a 17-18 ans. On la choisit parce que c'est à ce moment-là qu'on va vous la demander, 17-18 ans, quand on commence à signer des papiers, quand on commence à avoir des responsabilités, quand on commence à être majeur, généralement, d'un point de vue civil. Et on la forme à cet âge-là, et tout au long de sa vie, elle va rester à peu près la même. Donc elle a les deux éléments qui font que l'identité est un phénomène tout à fait complexe, c'est-à-dire que à la fois l'identité permet de se différencier et en même temps l'identité veut dire que je suis identique. Ça peut paraître contradictoire, mais il y a bien ces deux aspects-là qu'on va retrouver justement dans cette question de la signature. Et puis enfin, sur ma carte d'identité, j'ai bien vu, ils ont mis une photo. Ils ont mis une photo du visage, une photo, le visage, parce que c'est certainement la partie du corps par laquelle on va se reconnaître le plus. C'est celle qui s'offre à l'autre, le visage, et celle qui me permet d'exprimer un certain nombre de choses et qui surtout me permet de communiquer avec les autres. Bon, hormis ça, et si vous l'avez bien compris, l'identité, c'est bien entendu, quand on pense à la carte d'identité, donc les cas où je sens trame, au niveau des sociétés. Et là, ça m'a fait penser, je pensais à un film, peut-être que vous l'avez vu, ce film s'appelle Bienvenue à Gattaca. Vous l'avez vu, ce film? Non, vous avez vu ce film. Dans Bienvenue à Gattaca, en fait, On est dans un modèle de société, c'est un film de science-fiction, plutôt d'anticipation. On est dans un modèle de société où justement l'État cherche à tout contrôler. Et d'ailleurs, il contrôle tellement tout que dès votre naissance, on sait ce que vous allez devenir. On sait à quel âge vous allez mourir, on sait ce que vous allez effectuer comme travail. Et le simple fait d'être né d'une certaine manière va déterminer ce que vous allez être pour le reste de votre existence. Dans Bienvenue à Gattaca, il y a un type qui était déterminé, conditionné en tous les cas, qui était destiné à ne devenir qu'un simple type, mais il avait décidé qu'il avait envie de voyager. Et pour pouvoir réaliser son rêve, eh bien, il fallait qu'il transgresse ses règles, qu'il empêchait, lui, parce qu'étant né dans une certaine classe sociale, il ne pouvait pas effectuer ce voyage. Et il va prendre l'identité d'un autre, justement, par un certain nombre de signes, pour pouvoir réaliser son rêve. C'est pour dire à quel point l'identité est un enjeu important dans les sociétés et que parfois elles ont cherché à le contrôler de manière trop importante et à la rendre trop rigide. On peut empêcher les individus d'être ce qu'ils sont. Mais l'identité, et par rapport à la thématique proposée aujourd'hui, l'identité, elle est surtout un enjeu au niveau individuel, au niveau humain, pour chacun, pour toute personne qui vit en société. L'identité, c'est une construction qui va s'effectuer tout au long de l'existence. Et l'adolescence, c'est la période la plus importante, la plus riche dans la constitution de l'identité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'adolescence, c'est cette période transitoire que vous connaissez. C'est cette période transitoire entre un stade biologique, qui est l'enfance, et un statut culturel, celui-ci, qui est l'âge adulte. Et entre les deux, on a l'adolescence. Et les enjeux de cette adolescence, en tous les cas, il y a deux enjeux majeurs à l'adolescence. Qu'est-ce qui nous indiquerait qu'on est sorti de l'adolescence, en tous les cas ? Mais il y a deux enjeux majeurs de l'adolescence. Pour l'adolescent, il convient pour lui, premier enjeu, d'intégrer les grandes métamorphoses de son corps. Le grand bouleversement de l'adolescence, c'est l'émergence de la sexualité. C'est le fait de passer d'un être comme un ange, l'enfant, à un être sexué, c'est-à-dire capable de se reproduire ou pas. C'est son choix. Ça, c'est un premier grand enjeu de l'adolescence. Le second grand enjeu de l'adolescence, il est en lien avec le système dans lequel on vit et l'idée de s'intégrer dans un tissu social. Finalement, c'est faire quelque chose de son existence, dans son existence. Et pour faire quelque chose, il faut déployer un système de valeurs, des valeurs qui nous appartiennent, et accéder à des rôles sociaux. Voilà les grands enjeux de l'adolescence. C'est-à-dire qu'il y en a un grand enjeu qui va être autour du corps et l'autre qui va plus être autour de la société et d'une identité qu'on pourrait dire sociale. Alors si l'adolescence est centrale, c'est, je le disais tout à l'heure, c'est parce qu'elle est charnière. Et elle est charnière dans le développement humain. Comment elle se construit, cette identité ? Elle se construit, je le disais, tout au long de l'existence. Et elle commence même bien avant qu'on ne soit conçu. Un être humain, il commence d'abord dans le discours de ses parents, c'est-à-dire par un discours de est-ce qu'on imagine avoir un enfant ? Ah oui, j'imagine avoir un enfant, etc. Et c'est parce que ça commence en parole qu'il va y avoir des actes et qu'un enfant va naître. Tout au long de notre existence, la parole va soutenir ce que nous sommes et nous aider à définir notre identité. Quand les enfants sont petits, très généralement, quand ils ont certaines attitudes, par exemple, l'enfant qui va avoir du mal à parler avec les autres, qui va avoir du mal à trouver sa place, etc., on va dire « Ah, mais c'est un enfant timide », par exemple. Et c'est cette parole qui, au fur et à mesure, va former en partie notre identité. Et puis, il y a un autre grand mouvement qui s'inscrit en même temps. Cet autre grand mouvement, c'est le fait qu'on prend conscience de son existence par des expériences et par des éprouvées qui sont au lieu généralement dans le corps. Le petit bébé lui-même ne se distingue pas de sa mère et il va le faire au fur et à mesure du temps. C'est au fur et à mesure du temps qu'on prend conscience de son propre corps et de sa propre identité. Voilà, jusque-là, on en arrive donc. Ça, c'était le petit enfant, et puis on en arrive à ce fameux temps de l'adolescence, et alors là, c'est un grand chambardement, très généralement, puisque tout ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ces enjeux de l'adolescence, ils vont un peu se précipiter, puisque une fois que le corps se met à changer, finalement, on est inéluctablement obligé de se diriger vers ce stade qu'on appelle l'âge adulte. Mais là, c'est pas aussi évident que ce qu'on pensait. Parce que un des mouvements nécessaires à l'adolescence, un des grands mouvements nécessaires, c'est de se séparer de ses parents, se séparer de ses identifications parentales. Alors, je m'explique, je vous l'aime. Jusqu'alors, en gros, jusqu'à l'âge d'environ 11-12 ans, nos parents, c'est les plus forts. Ils sont formidables, ils s'occupent de nous, ils nous emmènent partout, ils décident de quoi on mange, de comment on s'habille et de ce qu'on va regarder le soir à la télévision ou pas. Si on a été sage ou pas, on aura des bonbons ou pas. Et c'est un petit peu comme ça jusqu'à peu près l'âge de 11-12 ans. Et puis il y a un moment, donc, il y a toute cette métamorphose pubertaire et puis on commence à se dire, ben, ils sont pas si forts que ça mes parents, ils ont pas les réponses à tout. Il y a des questions que je leur ai posées, ils n'ont pas su me répondre. Voire ils m'ont menti. Ils n'ont pas été aussi honnêtes que ce que je le pensais. Moi, je les croyais vraiment parfaits. Et là, je commence à me rendre compte que mes parents, ce sont de braves humains, hein, finalement. Et je commence un petit peu à les remettre en cause. Une manière de remettre en cause ses parents, c'est par exemple ne plus souhaiter aller en sortie avec eux ou, par exemple, mieux encore, c'est ne plus souhaiter écouter la même musique que eux, c'est ne plus être d'accord avec leur opinion qui jusque-là m'allait très bien ou m'indifférait totalement, mais là non, je ne suis plus du tout d'accord avec ce que proposent mes parents, parce que ce grand mouvement de rejet finalement, non pas tellement des parents, mais en tous les cas des idées des parents, ça vient d'abord sur une grande déception, hein. Je le rappelle, on est déçus. On sait vraiment qu'ils étaient les plus forts et c'était valide. Ça vient sur une grande déception et puis on se dit, bon, après tout, tout ce qu'ils m'ont affirmé, toutes leurs convictions là, qu'ils m'ont affirmé au cours de mes 12 premières années de vie, qu'est-ce que j'en sais? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il n'est pas temps que j'aille me forger ma propre opinion par moi-même? Est-ce qu'il n'est pas temps d'ailleurs que je fasse mes propres expériences pour me créer mes propres directions, ma propre identité, mes propres objectifs à moi? Alors, généralement, ça ne se fait pas très en douceur tout ça, parce que vous pensez bien que des parents, que ça fait 12 ans qu'ils ont le contrôle total sur vous, le jour où vous leur dites « ça ne m'intéresse pas », ils ne le vivent pas forcément bien. Comme ils ne le vivent pas forcément bien parce que pour eux, vous êtes plus cher que la prunelle de leurs yeux, évidemment, ils tiennent à vous de manière très importante. Et comme ça se passe pas bien, très généralement, moi, de mon côté, en tant qu'ado, je vais me sentir un petit peu incompris. Et je vais d'autant plus choisir, donc, des nouvelles identifications. Alors, je vais tout de suite m'arrêter sur cette notion d'identification. C'est une notion assez intéressante. Allez, c'est la seule définition que je vais vous donner aujourd'hui. La notion d'identification, c'est le fait d'emprunter à quelqu'un un trait, pas l'ensemble de ce qu'il est, un trait de son identité, et je me l'approprie, et ça devient un trait de mon identité. L'identification, c'est finalement ce processus qu'on va mettre en place systématiquement et qui va nous aider à construire notre propre identité. Parce qu'on ne vient pas de rien, on vient souvent de l'autre. on vient de l'autre de choisir un certain nombre de choses qui nous plaisent. Alors qu'est-ce qui se passe justement si je reprends mon petit cycle de l'adolescence? Je suis à l'adolescence et là je commence donc à chercher de nouvelles identifications. Mais je ne vais pas les chercher dans ma famille. Jusqu'alors d'ailleurs, quand j'étais petit, essentiellement je cherchais des identifications dans ma famille. Je cherchais à ressembler à mon père ou à ma mère, etc. Maintenant, à l'adolescence, je vais, comme la parole de mes parents, je l'ai remise en doute, je vais aller chercher des identifications ailleurs. Notamment, par exemple, dans la musique. Notamment dans des personnes que je peux voir à la télévision, des stars. Je vais m'intéresser de plus près à la vie d'un auteur. Généralement, les musiciens ont quand même beaucoup de succès. Hein. La musique, c'est un lieu d'expression très investi parce que ça plaît, parce que la musique, c'est le partage, parce que c'est une émotion qu'on va pouvoir partager justement avec d'autres. D'ailleurs, très souvent, on n'écoute pas un style de musique, mais on va passer d'un style de musique à l'autre. Je me souviens d'avoir fait, pour ma recherche, des entretiens avec des gens qui m'expliquaient comment ils étaient passés du punk au rap et puis ensuite finalement à l'électro et voilà, que finalement leur recherche à travers la musique, elle était tout à fait parallèle et ils la mettaient eux-mêmes en lien avec leur recherche d'identité. Au départ, me disait un des garçons, il avait choisi d'écouter beaucoup de punk parce qu'évidemment ça énervait beaucoup ses parents, parce que c'est un son qui tape très fort et qui résonne énormément, et ça, du coup, ça déplaisait à ses parents. Et puis après, il avait choisi justement le hip-hop, parce que finalement, le rap, à l'époque, c'était la musique de Monsieur Tout-le-Monde. Tous les jeunes écoutaient du hip-hop. Alors, à un moment donné, il a eu envie de se conformer à ce que tout le monde faisait pareil. Ça le rassurait. Et c'est de cette manière qu'il s'intéressait un peu au hip-hop. Mais un des domaines les plus investis à l'adolescence et qui permet là encore de s'affirmer, c'est les vêtements. Les vêtements, c'est le lieu d'expression d'un certain nombre de choses. Avec des vêtements, on peut porter en quelque sorte, on peut choisir par exemple de masquer un corps qu'on considère dans lequel on n'est pas forcément très à l'aise, ou on peut choisir, par exemple, d'avoir une allure assez agressive. Une de mes patientes comme ça, qui a des piercings partout sur le visage, et qui m'expliquait qu'au départ, quand elle avait commencé à choisir son allure, elle avait choisi une allure volontairement agressive pour éloigner les gens. Comme ça, personne ne venait lui parler. Elle avait ses piercings, elle avait un look très, très particulier, très destroy, et c'était une manière pour elle de garder les gens à distance, un petit peu comme ça. Et de provoquer aussi, de provoquer des réactions. Elle voyait bien le regard que les adultes portaient sur elle, et elle aimait cette provocation qu'elle pouvait avoir. Je parlais de la musique tout à l'heure. La musique, elle permet donc souvent d'affirmer ses goûts et ses préférences, et on va se regrouper dans des petits groupes qui partagent les mêmes goûts. Et qui dit se regrouper dans un groupe, c'est aussi adopter les valeurs du groupe dans lequel on se trouve. Si les valeurs du groupe dans lequel on se trouve, c'est boire beaucoup d'alcool et fumer des pétards, et moi je vais boire beaucoup d'alcool et fumer des pétards pour faire partie de ce groupe, par exemple. Et c'est comme ça que je vais commencer aussi à avoir mes premières expériences. Les miennes. Pas celles qu'ont choisies mes parents pour moi. Celles que moi, je l'ai choisies par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que j'ai envie d'être. Alors très généralement, d'ailleurs, dans ces groupes formés, que forment la plupart des jeunes, dans ces groupes, donc, on expérimente, je le disais, un certain nombre de comportements qui sont souvent pas très appréciés des parents. Quand je disais boire de l'alcool et fumer des pétards, c'est pas ce que préfèrent effectivement la plupart des parents. Mais l'adolescent aime bien transgresser. Transgresser, et je reprends par rapport à votre titre de départ, en quête d'identité, il y a dans l'idée de la quête, il y a aussi l'idée d'aller chercher quelque chose et d'être en mouvement et parfois d'aller transgresser, passer une frontière, dépasser un interdit. Parce qu'on est en train d'explorer, on est en train d'expérimenter, on est en train de découvrir le monde qui nous entoure, et parfois, par inadvertance, peut-être par provocation, on transgresse. Mais à propos de ces groupes de socialisation qui sont souvent liés, par exemple, donc je le disais, aux vêtements, à la musique, ça peut être d'autres choses. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, avec Internet, etc., on voit qu'il y a d'autres formes de socialisation qui se mettent en place avec d'autres propositions. Mais ce dont, à mon avis, il faut... Ce sur quoi vous devez rester vigilant, en tous les cas, il me semble, c'est que la société d'aujourd'hui, elle a des particularités que celle d'hier peut-être n'avait pas. C'est qu'aujourd'hui, on est pleinement dans une société de consommation. Et ce qui veut dire, les gens qui sont à la tête de ces hyper-industries, des hyper-industries en tous les cas, ce qu'elles ont bien compris, ce qu'elles ont bien compris, en gros, c'est que les adolescents, on ne leur reconnaissait pas totalement leur statut, mais il y a un statut qu'on leur reconnaît systématiquement, c'est le statut de consommateur. Et ça, il n'y a pas de problème. On sait où viser. Moi, l'idée est la suivante, c'est que tous ces gros industriels, ils ont compris que finalement, si on choisissait une marque de basket à 14-15 ans, la marque de basket d'ailleurs qu'on va choisir à l'âge de 14-15 ans, généralement, ça sera la marque de basket qu'on va garder jusqu'au bout de sa vie. Alors, le commerçant, ça peut évoluer, oui, évidemment, ça peut évoluer. Mais ce à quoi on est, ce qu'on aime et ce qu'on affectionne particulièrement durant cette période de vie, généralement, ça va nous poursuivre tout au long de notre existence. Alors ça, c'est un fait. Mais ce qui est plus... Enfin, du point de vue de ces gens qui sont des commerçants, ce qui les intéresse, eux, c'est de vous vendre un certain nombre de produits pour être sûr de continuer surtout tout au long de votre existence de vous vendre ces produits. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que toute cette petite mécanique psychologique de l'adolescence, vous savez peut-être que l'adolescence, c'est un concept très récent. L'adolescence, ça n'existe pas depuis très longtemps. Ça existe de manière massive, on va dire, depuis les années 50. Avant les années 50, bon, il y avait bien cette tranche d'âge un peu particulière, mais ce n'était pas beaucoup pris en compte dans nos sociétés. L'adolescence, on commence à en parler en vérité vers 1850. Et réellement, elle émerge comme un phénomène massif à partir de 1950 avec le rock'n'roll. Et ouais, ça c'est la musique des adolescents, avec Elvis Presley, et c'est à ce moment-là que commence l'adolescence. Et c'est à ce moment-là que justement, des industries commencent à se dire, mais si on arrive à capter leurs désirs à ces adolescents, si on arrive à leur proposer, nous, des standards, des modèles standards, et bien on est sûr qu'ils vont acheter nos produits. Et c'est ce qui se passe actuellement. C'est que toutes ces grosses industries, dans leur intérêt économique, vous proposent des modèles standards à assimiler. Et puis, de cette manière-là, ils orientent vos achats, vos actions et vos projets. C'est, je crois, quelque chose auquel il faut faire très attention, me semble-t-il. Alors, en plus de ça, où est-ce qu'ils ont été très très malins, c'est que jusqu'alors, je reprends toujours un peu historiquement, parce que ça reste intéressant. Dans les années 60, où là on a la première génération d'adolescents de manière massive, autrement dit, vos parents et un peu plus que vos parents, en gros, ceux-là d'adolescents, ceux qui étaient adolescents à cette époque-là. À l'époque, il n'y avait pas 10 000 modèles. Hein. À l'époque, vous étiez soit Beatles, soit Rolling Stones. Vous aviez le choix entre deux groupes de rock. Aujourd'hui, vous avez tous les choix. Vous pouvez être néo-gothique, funk, hip-hop, électro, rap, et vous mélangez le tout, et ça crée encore des sous-types, et il en existe une multiplicité d'autant plus importante et qui, eh bien, faut qu'on y voit encore moins clair que précédemment. On en est même venu, quand même, dans ce fonctionnement-là, à vous dire que finalement, n'importe qui peut devenir une star. C'est le thème d'énormément d'émissions qui sont aujourd'hui diffusées aux adolescents à la télévision, puisque La Nouvelle Star et compagnie, c'est des émissions dans lesquelles on vous dit, voilà, vous qui venez de n'importe où, vous pouvez devenir la future star. C'est un très joli rêve, mais dans ce très joli rêve, comme dans beaucoup de rêves, il y a très peu d'élus et beaucoup de déçus. Et pourtant, ces machines-là, elles se mettent en marche et elles ont tout intérêt à le faire, mais pour des raisons purement économiques que je vous expliquais tout à l'heure. L'autre notion qui me semble importante aussi, c'est la notion du temps. Parce que à l'adolescence, on découvre quelque chose, enfin, on découvre, s'ouvre à nous les perspectives temporelles. C'est-à-dire qu'avant l'adolescence, une fois de plus, quand on est enfant, on sait quels sont les différents jours de la semaine, on peut à peu près savoir où se situe notre anniversaire, hein, qui est la date qu'on attend le plus dans une année, il faut bien le dire. Mais au-delà de ça, on a du mal à situer ce qui va se passer avant, après, etc. À l'adolescence, on commence à prendre conscience de ces perspectives temporelles et on se pose la question, les fameuses questions, hein, qui sont des questions existentielles de qui je suis, c'est la question d'identité, d'où je viens, où je vais. À l'adolescence, notamment, on est dans cette... on a comme... comme tâche à accomplir, de relier le passé, le présent, pour essayer de décider le futur. Alors, relier le passé au présent et au futur, c'est pas si évident que ça quand on pense qu'on est tout le temps en train de changer. La photo de moi bébé, de moi enfant, de moi ado et de moi adulte, elle montre bien des grandes différences. Et c'est difficile pour moi de relier ce passé, ce présent et ce futur. C'est une des grandes difficultés aussi. D'ailleurs, très souvent, moi, quand je reçois dans mes consultations des jeunes, et contrairement aux adultes, les adultes, quand ils arrivent dans une consultation de psy, sont généralement en demande de quelque chose, ils sont en demande d'aide. Et très généralement, ils vont me dire, voilà, moi j'ai un problème, mettons par exemple, avec les jeux d'argent et de hasard, etc. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et ils commencent, ben, qu'est-ce qu'ils font ces adultes? Ils me racontent leur histoire. Ils me disent, voilà, ben, c'est le jeu, ça a commencé quand j'avais 18 ans, et il m'est arrivé ça, puis ensuite il m'est arrivé ça, etc. Et ça dure comme ça. Si je ne les arrête pas, ils peuvent parler assez longtemps, mais très généralement, ils déroulent comme ça leur histoire. Un adolescent, quand je le reçois dans ma consultation, généralement, il n'est pas très content d'être là. Il n'a pas tellement voulu venir. C'est plutôt ses parents qui ont souhaité qu'il vienne me voir. Il n'est pas très content de me parler, tout simplement. Et il n'a pas d'histoire à me raconter. Parce que son histoire, il est en train de la vivre. Il est en train de vivre d'ailleurs les expériences qui vont composer son histoire. Mais il ne peut pas me raconter son histoire directement, puisqu'il est en train de vivre ces événements-là. Le temps de l'adolescence est un temps qui est laissé libre, donc pour des expérimentations qui peuvent avoir un caractère réversible. Ça veut dire ce que je peux vivre dans l'adolescence, ça peut être quelque chose que je ne vais pas faire tout au long de mon existence. Autrement dit, ce délai-là, il est laissé donc au tâtonnement, aux essais, aux explorations, etc. Dans les sociétés traditionnelles, comment est-ce que, justement, on passait du statut d'enfant à celui d'adulte? Dans les sociétés traditionnelles, le statut d'adolescent n'existe pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas besoin. Dans les sociétés traditionnelles, en fait, on a organisé des rites initiatiques, dans lesquels, très généralement, enfin, caricaturalement, mais pour raconter un peu comment ça se passait, on emmenait les garçons d'un côté, par exemple, le groupe de jeunes garçons à peu près du même âge, une douzaine d'années, 12-13 ans, on les emmenait donc dans la forêt, généralement ils passaient un petit temps tous ensemble, que en groupe de garçons pendant une semaine, et puis ils revenaient au village, donc il y avait une séparation qui était faite d'avec les parents, d'avec le reste de la famille, et puis ils revenaient au village, et puis il y avait une sorte de cérémonie où tout le village était invité. Et là, il y avait une épreuve initiatique qui souvent était une épreuve physique qui allait marquer dans le corps l'adolescent et l'individu pour sa vie entière. Et suite à cette épreuve physique, l'enfant était devenu un adulte et il avait sa place dans la société. Ça déterminait sa place dans la société. Ces rites initiatiques, ils avaient évidemment deux avantages. Ils permettaient d'éprouver un sentiment d'existence. Généralement, le rite initiatique, je vous le disais, ce sont souvent des marquages de corps où on a une très forte sensation avec son corps. Et puis, de favoriser aussi le sentiment d'appartenir à un groupe, puisqu'ensuite, vous étiez réintégré à nos groupes. Dans nos sociétés, à nous, il n'y a plus de rites initiatiques. Il en restait encore quelques-uns il y a une dizaine d'années. On l'appelait le service militaire, essentiellement. C'était un des grands rites initiatiques de notre société, où là, pareil, vous avez vu, c'était comme dans les sociétés traditionnelles, on ne prenait que les garçons, les emmenaient dans la forêt, pendant un peu plus d'une semaine, pendant beaucoup plus de temps. Et puis, on leur apprenait à faire leur lit correctement et à essayer d'obéir à un certain nombre d'ordres, pas toujours des ordres très intelligents, mais en tous les cas, ils apprenaient à être autonomes, détachés de leur maman, avant à nouveau de retourner dans la société. Donc, nos sociétés à nous n'organisent plus ces rites initiatiques et je crois que les adolescents, aujourd'hui, se débrouillent tout seuls pour les mettre en place. Ils le font, par exemple, dans des grandes fêtes où ils se retrouvent et partagent un certain nombre d'expériences. Ou encore, peut-être sur Internet, dans un certain nombre de jeux vidéo ou de réseaux de sociabilité, où on se retrouve entre pairs et où on élabore des scénarios qui nous plaisent et qui nous font réfléchir à qui on est. Alors, Il me semble, et c'est pareil, tiré d'une expérience clinique, que l'une des grandes questions de l'adolescence, et qui est très en lien avec la question de l'identité, évidemment, c'est de savoir comment on forme un couple. Ça peut paraître un peu bizarre comme question. Mais très souvent, dans mes prises en charge, j'ai l'occasion de discuter longuement avec des adolescents, c'est-à-dire quand on dit on peut discuter longuement, on va plus au fond des choses. Et très souvent, je me suis rendu compte que l'une des grandes questions, c'était ça, c'est comment est-ce qu'on forme un couple. La sexualité à l'adolescence, elle est opératoire, comme on dit. Hein, la sexualité à l'adolescence, à ce moment-là, c'est quelque chose qu'on fait parce qu'il faut le faire. Mais ça, la question que ça pose, c'est surtout celle de comment je fais pour entretenir une relation avec un autre que moi, pas pendant 5 minutes. Et puis c'est fini. Mais pendant du temps. Parce que l'idée de vivre avec quelqu'un d'autre, c'est l'idée de reconnaître la différence de l'autre, de respecter cette différence de l'autre, et où en même temps, d'entretenir une relation de désir avec lui. C'est tout un jeu justement de dépendance et d'indépendance. Ces termes-là, je les ai un petit peu employés. On est dépendant de ses parents au début de son existence. On commence à s'en détacher à l'adolescence. On tente de s'en détacher à l'adolescence pour aller vers quelque chose qui serait de l'indépendance.
Voilà.
Donc c'est souvent sur cette question plus de la relation à l'autre que me questionnent en tous les cas les adolescents. C'est une question extrêmement difficile. Comment est-ce qu'on peut être dans une relation tout en n'en souffrant pas, tout en gardant une distance suffisante, tout en gardant le désir pour l'autre? C'est, me semble-t-il, une des grandes questions. Maintenant, l'identité, je pense que je vais terminer sur cette notion-là. Cette identité, vous l'aurez compris, c'est un phénomène extrêmement complexe et extrêmement paradoxal, avec des facettes très contradictoires, très centrales dans notre existence, puisqu'elle nous permet finalement de se sentir unifiés, d'avancer dans notre existence. Et surtout, cette identité, je crois que, dans cette notion d'identité, moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est qu'on ne peut pas se construire sans les autres, et qu'on a besoin de l'autre toujours, tout le temps, pour pouvoir être quelqu'un. C'est-à-dire que notre identité personnelle, elle est toujours dépendante des autres, et que de nier l'existence de l'autre, c'est certainement ne pas se construire une identité. Et c'est dans cette relation avec l'autre, l'autre qui est un miroir pour soi, eh bien que l'on se construit. Voilà, je vais terminer là-dessus, sur l'autre.